t'ai partagé ce qui a été prié, j'ai plus besoin de prêcher. Vous êtes OK avec ça? Bon dimanche. Alors j'y vais quand même. Et pour commencer ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire vraie. C'est l'histoire d'un homme qui est né le 18 juillet 1918 dans un pays où son peuple n'avait pas le droit de lever les yeux. Un peuple opprimé, un peuple humilié, un peuple rejeté sur sa propre terre. Et cet homme-là, dès l'enfance, a vu l'injustice, a vu la souffrance, il a vu la séparation. Mais lui, au lieu de grandir parmi les siens, il a grandi dans ce peuple, au milieu d'eux. Il a été formé dans les hautes écoles de ceux qui dominaient son peuple. Il a appris leur langue, il a appris leur culture, il a appris leurs lois. Mais très vite, il a compris comment ils fonctionnaient, comment ils pensaient. Et plus tard, cet homme est devenu avocat. Il a voulu défendre les siens, défendre son peuple. Il a voulu briser les chaînes. Vous voyez de qui je veux parler. Il a essayé de le faire par ses propres forces, par la révolte, par la colère, par la lutte. Et puis un jour, tout s'est écroulé. On l'a arrêté. Il a été jugé. Il a été condamné. Il a passé 30 ans dans une toute petite cellule, sur une île balayée par le vent et par le sel. Jour après jour, année après année, il cassait des pierres sous un soleil brûlant. Les gens l'oubliaient et son nom disparaissait. Mais dans cette prison, Dieu façonnait son cœur. Et dans cette solitude, Dieu le préparait à ce qui allait se passer après. Et un jour, la porte de sa cellule s'est ouverte. Mais l'homme qui en est sorti n'était plus le même. Il n'avait plus la jeunesse, il n'avait plus la force, il n'avait plus la voix ni la révolte d'autrefois, mais il avait la sagesse, il avait la paix. Et il avait la vision d'un guide. Alors il n'a pas cherché la vengeance, mais il a cherché le pardon. Il n'a pas choisi de rallumer la haine, il a choisi la réconciliation. Et c'est ainsi qu'il a conduit tout un peuple à la liberté. Vous connaissez son nom ? Nelson Mandela. Et Dieu a une façon particulière de préparer ceux qu'il veut utiliser. Et Luc nous en a parlé la semaine dernière. Mais cette histoire nous rappelle une vérité simple. La prison pour Nelson Mandela, ou Joseph même, ou bien le désert pour Moïse, n'était pas une punition, mais une école. Et quelle école ! Et j'ai cette mission ce matin de vous partager Exode 3 et 4, pour ceux qui ont fait leur devoir. Et j'aimerais me focaliser dans un premier temps sur Exode 3, du verset 1 au verset 12, que je vais vous lire, et qui va être affiché derrière. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et lui dit : « Moïse, Moïse !» Et il répondit : « Me voici. » Dieu lui dit : « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta : « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit : « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur ont fait subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Et Moïse dit à Dieu : « Mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ? » Et Dieu lui dit, « Je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette même montagne. » Et Luc nous a parlé la semaine dernière de Exode 1, Exode 2 et de tout ce qui s'était passé. Mais je voudrais profiter de mon premier point pour vous redonner un petit peu le contexte et appuyer un petit peu. Qu'est-ce qu'on sait de Moïse précisément à cet instant ? Au verset 2, Luc nous en avait parlé. Sa maman enfanta un fils et elle vit qu'il était beau. Et c'est la même traduction que « bon ». Puis j'ai cherché un peu. Et dans Actes 7, verset 20, on peut lire que Moïse était bon, était beau aux yeux de Dieu. Il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et on imagine que Moïse devait avoir tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pouvait. Il devait avoir accès à des mets délicats, comme le jeudi soir à Alpha. Il devait être vêtu des plus belles tuniques, des plus beaux habits. Il a sûrement profité des plus grandes et des plus belles écoles. Et il est dit de lui dans Actes 7 qu'il était puissant en parole et en œuvre. Moïse va voir ses frères oppressés. Vous savez ce qui se passe après. Il frappe un Égyptien. L'Égyptien est mort. Il l'enterre. Il prend peur. Pharaon veut le tuer. Et il part au désert de Madian. Et on se retrouve en quelques versets, on se retrouve avec un homme qui avait tout et qui n'a plus rien, qui vivait dans un palais et qui part vivre dans un désert. Pour faire quoi ? Paître des moutons. Vous imaginez la scène ? Mais Moïse pense avoir tout perdu. Et Moïse a tué. J'imagine à quel point son cœur doit être serré. Mais Dieu se sert de ce séjour à Madian pour préparer son cœur. 40 ans à travailler dans le désert de Madian, dans les montagnes, à vivre avec des moutons, des brebis, pour devenir quoi ? Un berger. Et c'est ce que Dieu l'appelle à être. Et c'est dans la solitude des montagnes et dans les vallées que pendant 40 ans, il a appris tout ce que dans le palais, il ne pouvait pas apprendre. C'était quoi ? Une foi ferme. Une assurance en Dieu, une confiance pleine dans le Seigneur. Et on se retrouve donc au début de ce chapitre 3. Moïse a maintenant 80 ans. Il y en a qui ont 80 ans ici ? Jackie, un encouragement pour toi. Dieu se révèle au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et tout au long de la parole, on voit Dieu se manifester à travers le feu. Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Exode 13, Pierre vous en parlera mieux que moi dans quelques dimanches. Oui, Pierre, c'est toi. Acte 2, verset 3. Des langues qui semblaient de feu se séparaient les unes des autres et leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. On voit le feu à travers toute la parole. Mais on voit aussi le feu comme une réponse. Dans Lévitique 9, au verset 23, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre, puis ils ressortirent et bénirent le peuple. Alors la gloire de l'Éternel apparut sur tout le peuple. Une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma l'Holocauste. Et les graisses sur l'autel. Ou encore dans 1 Chronique 21, David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel fait quoi ? L'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Dans les deux derniers exemples, on voit que le feu consume. Et moi, je vais être sincère avec vous, j'aime bien tout comprendre. J'aime savoir pourquoi ça consume et savoir pourquoi ça ne consume pas. Et bien, ce matin, je vais enfin vous révéler pourquoi le buisson ne se consume pas. Non, c'est faux. Vendredi, je le partageais à Farid, vendredi après-midi, je suis parti faire quelque chose que je ne fais jamais. Je suis parti marcher pendant 2 heures. balader, comme vous appelez ça, dans les hauteurs de mon village. Et je suis vraiment allé faire cette balade avec une vraie volonté d'avoir une réponse vraiment de l'Éternel sur ce que j'allais vous apporter ce matin. Et pourquoi pas savoir pourquoi le buisson ne se consumait pas. J'ai bien vu un feu, mais c'était des branches d'olivier qui brûlaient. Et comme l'image de la toupie et comme ce que Aline nous a partagé ce matin, le Seigneur m'a interpellé sur ne cherche pas à savoir pourquoi le buisson ne se consume pas, mais juste arrête-toi et contemple. Contemple cette image, contemple ce que Moïse a vu, ce que Moïse a vécu, parce que c'est ça ma présence et c'est ça ma gloire. Et j'étais dans ma balade et forcément j'ai une montre connectée et je suis parti, je voulais un rythme. Mais en fait, le Seigneur me disait, t'es pas parti pour faire une rando. Tu es parti pour me rencontrer, pour venir dans ma présence. Je veux vraiment nous inviter, en écho à ce que Aline nous a partagé, sachons nous arrêter. Sachons nous arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et en plus de ce feu qui ne se consumait pas, Dieu interpelle Moïse avec sa voix en l'appelant depuis l'intérieur du buisson. Et que répond Moïse ? Me voici. Moïse a enfin sa réponse. Il a 80 ans, ça fait 40 ans qu'il est dans le désert. À 80 ans, il a sa réponse, 40 ans après. Il aurait pu avoir juste le feu, mais il y a le feu. Il y a ce buisson qui ne se consume pas et il y a Dieu qui l'appelle par son nom. Et que dit Dieu juste après que Moïse ait dit « Me voici ». N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Les sandales de Moïse représentent son ancienne condition, sa condition de berger. Mais Dieu lui demande de les ôter avant même de continuer de parler. Dieu veut faire rentrer Moïse dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de plus grand. Et du coup, c'est les questions que j'ai pour nous ce matin. Avec quelle attitude rentrons-nous dans la présence de Dieu ? On l'a parlé ce matin. On l'a chanté. On est revenu dessus. On a prié là-dessus. Avec quelle attitude est-ce que je rentre dans la présence de Dieu ? Et quelles sont les sandales que je dois ôter ? Qu'est-ce que je dois enlever ? Qu'est-ce que je dois abandonner pour rentrer pleinement dans la présence de Dieu ? Chapitre 3, au verset 7 à 9, je l'ai lu tout à l'heure. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri. » Et Luc nous en avait déjà parlé la semaine dernière. Ça, c'est ce qu'il dit à Moïse, mais juste avant, il l'avait déjà dit. Et Dieu entend son peuple, et Dieu se souvient de son alliance. Dieu regarde à ce qui se passe. Dieu sait tout. Et il prend conscience de la détresse de son peuple. Pas juste du peuple d'Israël à l'époque de Moïse, mais de son peuple, même encore aujourd'hui. C'est la même chose pour nous. Dieu entend nos cris. Dieu entend nos voix, nos douleurs. Dieu voit ce qui se passe. Dieu connaît chaque saison. Et qu'est-ce que Dieu fait dans ce genre de saison ? Il envoie un libérateur. On a plein d'exemples dans la Bible. Et le plus bel exemple, c'est le plus grand libérateur, le plus grand consolateur, c'est Jésus. Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » On en a parlé ce matin. Nous sommes libres. Nous sommes sauvés. En lui. Donc mon point numéro 3, ou 2, non 2. Dieu appelle un libérateur. Et au verset 10, on lit quoi ? Maintenant va, je t'envoie vers Pharaon et fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Seigneur, on parle de 600 000 personnes. Et j'ai pas compté les enfants. Et que dit Moïse ? Eric nous l'a partagé ce matin. Qui suis-je pour aller voir vers le Pharaon et pour faire les Israélites, sortir les Israélites du pays d'Égypte ? Et je vous ai refait un tableau ce matin. Normalement, ça doit vous rappeler une prédication que j'ai faite il y a un peu plus d'un an. Et c'est un doux écho à une prédication sur Gédéon. Vous vous rappelez de Gédéon ? J'ai pris un autre exemple aussi. Donc Dieu dit à Moïse, « Maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. » Et Moïse dit, « Qui suis-je ? » Plus loin, il dit, « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. » Encore plus loin, « J'ai pas la parole facile, j'ai la langue embarrassée. » Et puis finalement, quatrième objection, « Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, mais pas moi. » On croirait moi quand Farid m'avait appelé pour prêcher. Gédéon, c'était pareil. Va avec la force que tu as et sauve Israël. Oui, c'est moi qui t'envoie. Mais avec quoi est-ce que je vais sauver Israël ? Je suis le plus petit de la demi-tribu de Manassé. Et pour Jérémie, c'est pareil. Tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai. Tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Mais Seigneur, je ne peux pas parler, je suis un jeune garçon. Quelle est la réponse de Dieu à chaque fois ? Je serai avec toi. On a une promesse d'un accompagnement divin. Je serai avec toi. C'est moi qui serai ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ils te feront la guerre, mais ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris ? Je suis avec toi. Il est avec nous, quelles que soient les situations. Dieu appelle Moïse, un ancien meurtrier, pour libérer son peuple de 400 ans d'esclavage. Dieu appelle Gédéon à libérer son peuple de l'oppression des Madianites. Avec quoi ? Des cruches et des lampes. Dieu appelle Josué et les Hébreux à marcher pendant 7 jours avec l'Arche de l'Alliance et des trompettes autour de Jéricho. Et au 8e jour, ça s'effondre. On est d'accord que ça n'a aucun sens. Et Exode 3, verset 20 dit « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de miracles que je ferai au milieu d'elle. Et après quoi, il vous laissera partir. » On pourrait se dire « Bon, le Seigneur va œuvrer, on va finir par partir, c'est top. » Mais ça ne suffit pas. Dieu rajoute « Je ferai en sorte que votre peuple obtienne la faveur des Égyptiens. » Ok, c'est bien, on a la faveur. Et en plus, quand vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles et vous enlèverez cela des Égyptiens. Ils n'ont pas juste été libérés, ils ne sont pas juste sortis. Ils ont eu la faveur du peuple et ils sont partis avec de l'or, de l'argent et avec tout un tas de choses. Faire confiance à Dieu même quand ça n'a aucun sens. J'irai même plus loin, faire confiance à Dieu encore plus quand ça n'a pas de sens. Rappelez-vous, Juges 7, au verset 2, un verset que j'aime beaucoup, où l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre, pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. » Le Seigneur divise le nombre de soldats, il enlève la moitié. Mais que dit Matthieu 19, verset 26 ? Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Dieu donne le plan, Dieu donne chaque détail, Dieu dit comment il va faire, et Dieu dit comment Pharaon va réagir. Il donne tout, parce qu'il a déjà tout prévu. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est que Dieu ne donne pas de vision sans provision. Il a déjà équipé Moïse, il a déjà équipé Gédéon, il a déjà équipé chacun de nous ici. Du coup, j'arrive sur mon point numéro 3. Qu'y a-t-il dans ta main ? Au bout de la deuxième objection, Dieu se dit, bon, il va falloir que je travaille encore le cœur de Moïse, mais ça va fonctionner, je suis sûr que ça va fonctionner. Ok Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Et Moïse répond, un bâton. Et le bâton de Moïse est quelque chose de très utile, surtout après 40 ans dans le désert à faire paître le troupeau. Son bâton lui permet de s'appuyer pour marcher, son bâton lui permet d'avancer, son bâton lui permet de déblayer le chemin devant lui, mais aussi de se défendre d'un potentiel agresseur. Chaque berger en possède un, et pour Moïse, c'est sûrement un bâton de plus ou quelque chose de banal. Mais pour Dieu, c'est un bâton qu'il a donné à Moïse pour être dans ce rôle de berger. Et c'est par son bras, c'est par sa main, c'est par ce bâton que Dieu va opérer des miracles et faire sortir son peuple. Du coup, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Qu'est-ce que vous avez dans votre main? Luc 5, au verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour... » Et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous connaissez cette histoire? Ils avaient quoi, ces gars-là, dans la main? Un filet. C'est insignifiant. Et pourtant, Dieu va se servir de ce filet pour faire de ces hommes des pêcheurs d'hommes. Et on va plus loin. Il dit quoi à Pierre? Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce gars-là était pêcheur, il avait un filet dans les mains, et c'est sur Pierre qu'il veut faire son église. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on a dans la main? Est-ce qu'on réalise pleinement? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as quelque chose dans la main, mais ça te paraît insignifiant. Et je veux t'encourager ce matin à juste venir dans la présence de Dieu et dire, « Ok Seigneur, j'ai quelque chose, tu m'as donné quelque chose. » Révèle-le-moi, montre-moi, est-ce que c'est un don, une compétence, une qualité, un caractère? Mais Seigneur, ce que tu as mis en moi, je veux l'utiliser pour ta gloire et pour ta gloire seule. Jérémie 1, verset 5 dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Dieu, c'est toute chose. Et je crois vraiment que ce matin, le Seigneur veut parler. Il a déjà parlé sur le début du service, mais je crois vraiment qu'à travers ce que le Seigneur dit dans ce message, il nous avait consacrés et il nous a donné quelque chose dans notre main. C'est lui qui nous a tissés, c'est lui qui nous a créés. Alors, crions à lui, allons lui demander, Seigneur, comment est-ce que tu veux m'utiliser ? J'imagine que 40 ans dans le désert, Moïse a dû se dire, ok, ce que j'ai pas fait, c'était pas top, mais je me suis repenti. Et Seigneur, maintenant, comment est-ce que tu veux m'utiliser? Prends ce bâton et occupe-toi du troupeau. Ok. Les plans de Dieu sont parfaits. Et Romains 8, verset 28 nous dit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Vous connaissez l'histoire de Joseph, haï par ses frères, jeté dans un trou, je vous fais un raccourci, hein. Vendu comme esclave pour 20 pièces, puis revendu ensuite comme serviteur à Potiphar. Il refuse les avances, il est envoyé en prison, il interprète les rêves de ses codétenus et 3 ans plus tard, un de ses codétenus qui est au service de Pharaon se rappelle de Joseph et fait intervenir Joseph auprès de Pharaon. Et Joseph est propulsé vice-roi d'Égypte. Mais il fallait que Joseph traverse cette prison. Il fallait que Joseph soit vendu. Il fallait que Joseph traverse toutes ces choses pour être amené là où Dieu voulait l'utiliser. Et de la même façon, Moïse devait être élevé au palais de Pharaon. Parce que qui d'autre que Moïse était mieux placé pour ensuite aller devant le Pharaon et dire « Fais sortir mon peuple ». L'issue, on la connaît et on va le voir dans les dimanches qui vont suivre. Moïse va libérer son peuple. Donc laissez-moi juste vous dire que le désert c'est pas une fin. C'est une saison qu'on doit traverser. Prenons ces déserts comme une école et comme quelque chose dans lequel Dieu veut nous faire grandir. Pour ceux qui nous connaissent, petite histoire personnelle, ou ceux qui nous connaissent un peu moins, vous savez, avec ma femme, on était à Paris, région parisienne, et on avait une vie là-haut plutôt agréable, une belle vie, avec une belle situation, avec de belles ressources, avec un train de vie qu'on aimait bien. Et puis on arrivait dans un village qui s'appelle Bezous. Je vous laisse imaginer l'école de patience et notre désert qu'on a traversé. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était descendre dans le sud, le soleil, les cocktails, les soirées, une ville qui bouge. Mais on est à Bezous. Et quand on est arrivé, on a acheté une bergerie, il y a 4 ans. Il fallait tout refaire. Mais on ne savait pas pourquoi on était là. Nous, ce n'est pas ce qu'on voulait. Et le cri de notre cœur, c'était « Seigneur, pourquoi on est là ?» On avait bien la famille de Souza, ils sont partis au Togo. On s'est attaché au B, ils sont partis en Suisse. On s'est attaché au Chouznou, ils sont partis à Chamonix. On s'est attaché à une famille dans le village, ça a duré 2 semaines, ils sont partis vivre en Belgique. Pourquoi je vous dis ça ? Là-haut, on servait Dieu, du matin au soir pour certains dimanches, mais notre vie n'était pas centrée sur Christ. Et quand on est descendu, c'était pas la belle vie à Montpellier que Dieu nous appelait à vivre, c'était d'être ici. Et on réalise avec le recul que Dieu a travaillé notre cœur, parce que oui, là j'en rigole, mais pendant 3-4 ans, c'était pas simple. Pas de famille, pas ou peu d'amis, si ce n'est ici dans cette église, et merci Seigneur. Mais Dieu avait quelque chose d'encore plus grand. Et Dieu s'est révélé, un peu comme Moïse, pas dans un buisson, mais pendant une soirée, pendant un jeûne et prière, j'étais là-bas au fond, à droite, et c'était encore le cri de mon cœur, « Seigneur, pourquoi on est là ?» Il y a cette bergerie, je suis OK, on va la rénover, mais pourquoi on est là ? Et sa réponse a été claire. Vous êtes là pour cette église. Je vous prépare pour cette église. Et forcément, comme Moïse, comme Gédéon, ils disent, on est qui, nous, pour cette église ? Moi, je suis trop jeune, j'ai la langue embarrassée, j'ai pas la parole facile. Comment est-ce que tu veux qu'on fasse avancer ton royaume ici ? Mais le Seigneur a dit, je vous ai préparé, je vous prépare. Et vous êtes ici pour cette église. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, me voilà là, devant vous, anciens, à vous apporter la parole avec Francesca qui est diacre. Mais moi, je dis gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas ma volonté, mais sa volonté. Dieu a entendu le cri de notre cœur. Mais je vous garantis que si on n'avait pas eu cette grosse bâtisse à rénover, on serait dans le 34. On serait là-bas. Et on n'aurait pas eu cette humilité, on n'aurait pas eu cette proximité avec Dieu. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Et je voudrais finir avec ça. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui sont parfaits. Dieu cherche des cœurs disposés, qui veulent obéir, qui veulent lui faire confiance. Et qui veut lui dire, Seigneur, ok, je suis dans ma prison, je suis dans mon désert, je suis dans cette vie et dans tout ce que je traverse. Mais Seigneur, moi, ce que je veux, c'est t'obéir, c'est te servir. Et c'est ce qu'a fait Moïse, c'est ce qu'a fait Gédéon, c'est ce qu'a fait Jérémie, c'est ce qu'ont fait tant d'autres. Et c'est vraiment mon encouragement pour nous ce matin. Allons devant Dieu et osons dire, me voici, me voici. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière maintenant concernant ce message. Et si ce message t'a interpellé ce matin, et si tu es dans un désert et que tu attends désespérément la réponse de Dieu, ben, j'aimerais t'inviter à te rapprocher. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps maintenant de prière et qu'on puisse simplement faire ce pas, de se lever, de s'avancer et de dire « Ok, Seigneur, me voici. » Ou bien si peut-être tu ne sais pas encore comment Dieu veut t'utiliser, et dire « Seigneur, tu m'as donné quelque chose. En moi, dans ma main, peu importe. Et Seigneur, ça, je veux l'utiliser pour ta gloire. » Je voudrais aussi inviter peut-être des personnes qui se sentent incapables aujourd'hui de rentrer dans la présence de Dieu, ou peut-être indignes de dire « Moi, je ne suis pas digne de venir dans ta présence ce matin. Je ne suis pas digne de te regarder en face parce que je sais ce que je vis, je sais ce que je fais. Mais par contre, je veux enlever mes sandales et je veux venir dans ta présence ce matin. » Est-ce qu'on peut se lever ? Je vais prier. J'ai vraiment envie de vous inviter pendant ce temps de prière à faire ce pas, peu importe que vous soyez pas converti, peu importe que vous ne connaissiez pas Dieu ou que vous le connaissiez, comme on le disait tout à l'heure, depuis peu ou depuis toujours, mais osons nous avancer. Osons nous avancer ce matin. Père, je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce pour ta parole. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ce message ce matin. Et Seigneur, on veut s'arrêter dans ta présence ce matin. Et le désir de notre cœur, c'est que nous puissions contempler. Contempler ton œuvre. Contempler ta puissance. Contempler ta face. Et quelles que soient nos vies, quelle que soit notre condition, Seigneur, tu nous acceptes. Et c'est devant toi que nous voulons venir ce matin. Et nous voulons te dire, me voici. Que ce soit dans un désert, que ce soit dans une saison intense, que ce soit dans la douleur, Père, tu entends nos cris, tu vois, Seigneur, la douleur. Mais Père, simplement, Seigneur, ce matin, me voici. Me voici. Je prie qu'à travers les mots qui ont été donnés, les paroles qui ont été données ce matin, tu puisses continuer à faire ton œuvre, Seigneur, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Que tu puisses révéler, Seigneur, à tes enfants comment est-ce que tu veux les utiliser pour ta gloire. Pas pour nous, Seigneur, mais pour ta gloire. Amen.